Chapitre 16.
Nous avons laissé tous nos saltimbanques se livrer paisiblement aux douceurs de la sieste, à l'exception de Jean-Paul et de Petit Jacques, qui commençaient à être trop inquiets des suites de leur escapade pour pouvoir prendre quelque sommeil. Le corps repose mal lorsque l'esprit est troublé. Quand tout le reste de la troupe fut endormi profondément, et quand ils purent se parler sans tiers, ils fondirent l'un et l'autre en larmes. Plus de colère, plus de menaces, plus de reproches mutuels. L'adversité les avait enfin corrigés. Jusqu'à ce moment, ce n'avait été que simples camarades, unis par le hasard et que le hasard eût pu disjoindre. Ce furent désormais de véritables amis. Jean-Paul et Petit Jacques jurèrent de saisir la première occasion favorable pour regagner la maison paternelle et d'obtenir leur pardon par quelque châtiment qu'il fallût l'acheter. Or, cette occasion se présentait à l'instant même. Tout dormait autour d'eux, et depuis qu'ils avaient quitté leur fatale peau d'ours, ils pouvaient sans danger se montrer en public.
« Fuyons !» dit tout bas Jean-Paul. « Fuyons !» répondit Petit Jacques.
Et les deux amis se dirigèrent du fond de la grange où ils étaient vers la porte extérieure qu'ils voyaient entr'ouverte. Ils marchèrent lentement, à petits pas, n'osant respirer parmi tous les gens de la troupe qui gisaient çà et là, comme des morts sur un champ de bataille, et qu'ils avaient si grand intérêt à ne pas éveiller. Oh, comme leur cœur battait de crainte à chaque ronflement qu'ils entendaient, à chaque dormeur qui se remuait, à chaque brin de paille que leurs pieds faisaient bruire. Enfin, ils ont échappé à tous les périls du trajet. Deux pas encore, les voilà libres. Ils touchent la porte, ils l'ouvrent. Un fantôme se dresse alors devant eux. Ce fantôme, c'est leur terrible maître, qui, debout sur le seuil, les bras croisés et fumant sa longue pipe, accueille les déserteurs par un formidable ricanement. La Providence n'avait pas encore épuisé sur eux cette trop juste colère, et même, dois-je le dire, les plus cruelles peut-être et les plus humiliantes qu'il leur restait à subir. « eh bien, où allez-vous donc ainsi, mes jeunes virtuoses ?» s'écria leur affreux tyran. « Est-ce que par hasard vous voudriez nous quitter ?»« Oui, répondit Jean-Paul, nous voulons retourner chez nos parents. » Vous n'avez pas le droit de nous retenir malgré nous.
Minute, minute, mes jeunes philosophes. Causons tranquillement et ne nous fâchons pas si cela vous est égal. Vous êtes engagés dans ma troupe, c'est un marché conclu, il n'y a pas à s'en dédire. Je ne vous ai pas donné une somptueuse hospitalité, je ne vous ai pas habillés comme des vrais mirliflores, je ne vous ai pas nourri de festins de Balthazar, je n'ai pas donné le dernier vernis à votre éducation, pour qu'au premier caprice, vous me rendissiez victime de la plus noire ingratitude. Vous m'appartenez et je ne souffrirai pas que vous quittiez une ménagerie dont, je vous le réitère, vous êtes le plus bel ornement. Ainsi donc, rentrons et à la besogne. » Le marquis appuya ce discours d'un sifflement très persuasif de la baguette de noisetier qu'il avait toujours pendue au côté. Il fallut bien se résigner. Un roulement de tambour mit tout le monde sur pied, car le saltimbanque venait d'imaginer une nouvelle manière d'utiliser le temps en attendant l'heure de la représentation qui devait avoir lieu le soir. Aux nombreux talents dont nous l'avons vu doué, le marquis de la Galoche joignait ceux d'inventeur d'élixirs, d'arracheur de dents, de marchand de pommade, d'exterminateur de rats, d'extirpateur de durillons, de philanthrope, d'apothicaire, de vétérinaire, etc. C'était un génie universel. Ce fut à l'exercice de ces utiles métiers qu'il résolut de consacrer les moments de loisir qui lui restaient. Il divisa sa troupe en deux bandes. Ceux-ci, revêtus des brillants costumes de l'État, devaient lui servir de cortège, accompagner son tombereau de charlatan et augmenter ainsi la grotesque splendeur qui entoure de tels personnages. Ceux-là, revêtus au contraire de simples habits de paysans, devaient se présenter successivement comme curieux, comme malades, comme acheteurs, afin d'attirer la foule et d'entraîner les chalands par la force de l'exemple. Dans l'argot du métier, on appelle allumeurs les compères de ce genre. Le marquis de la Galoche fit ensuite l'inventaire de sa pharmacie. Elle consistait, pour le moment, en pots, en boîtes et en fioles parfaitement vides, mais ornées de magnifiques étiquettes, lesquelles annonçaient, premièrement, de la pâte pectorale, guérissant radicalement les rhumes, les catarrhes, les phtisies, les pneumonies, les coqueluches, les corps aux pieds, etc., par brevet d'invention et de perfectionnement. Cette pâte était la seule approuvée par la faculté de médecine. On pouvait d'ailleurs l'appliquer avec un égal succès aux animaux, aux chiens, aux chats, aux moutons, aux volatiles et aux bêtes à cornes. Deuxièmement, une pommade capillophile pour arrêter la chute des cheveux, les empêcher de blanchir et les faire croître à la minute sur les têtes les plus chauves. Toujours par brevet d'invention et de perfectionnement, avec approbation exclusive de la faculté de médecine. L'étiquette portait la recommandation expresse pour les personnes qui se serviraient de ce cosmétique d'avoir bien soin de ne pas y toucher avec les doigts car, si grande en était la puissance, on avait vu des imprudents se faire croître instantanément par l'effet d'un pareil contact des forêts de cheveux au bout du pouce et de l'index, ce qui était très gênant pour prendre du tabac. Troisièmement, un onguent souverain pour les brûlures, les talures, les fractures, les foulures, les écorchures et les engelures. Toujours par brevet d'invention et de perfectionnement, avec approbation exclusive de la faculté de médecine. Pour composer ces trois spécifiques mirobolants, le marquis de la Galoche prit une certaine quantité de saindoux, en remplit indifféremment tous les petits pots vides et les couvrit d'une enveloppe verte à filet d'argent, avec un dessin métaphorique, lequel représentait un philanthrope vénérable ayant une robe semée d'étoiles, au long bonnet pointu et une barbe blanche, tenant à la main une baguette symbolique entortillée de vipères et guérissant une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux, dont il recevait pour tout salaire les touchantes bénédictions. Au bas était écrit « Franklin, inventeur du paratonnerre, du parapet, du parasol, du paravent, du parachute et du parapluie ». Le même saindoux devint ainsi, par la seule force de l'étiquette, de l'onguent, de la pommade et de la pâte pectorale. L'ingénieux apothicaire prit ensuite de la simple farine de sarrasin, substance fort commune au village, et il en remplit différentes boîtes et en fit, par un procédé analogue, une poudre pour les dents, un purgatif, un sternutatoire contre les migraines et même un poison exterminateur de rats. Toujours par brevet d'invention et de perfectionnement avec approbation exclusive de la faculté de médecine. Notre Esculape ramassa enfin quelques brassées de foin dans la grange, le hacha menu, le roula en petits paquets, l'enveloppa de la manière de s'en servir et en fit, au choix des futurs amateurs, du vulnéraire suisse, du thé chinois et un comestible à l'usage des malades, des convalescents et généralement de toute personne ayant l'estomac débile ou délicat. Ce foin haché reçut pour ce dernier cas un nom imité de l'africain, car s'il faut en croire la droguerie contemporaine, les Africains qui n'ont pas toujours de quoi manger dans leur désert possèdent une foule d'aliments aussi salutaires que délicieux. Toujours par brevet d'invention et de perfectionnement avec approbation exclusive de la faculté de médecine. Restait à fabriquer la plus miraculeuse de toutes les drogues inventées par le marquis, le véritable élixir de Mathusalem. Toujours par brevet d'invention et de perfectionnement avec approbation exclusive de la faculté de médecine. Ajoutons que la manière de s'en servir, qui enveloppait chacun de ces ingrédients, était ornée d'un dessin que nous avons décrit et accompagné d'une foule de certificats constatant les fabuleuses guérisons qu'elle avait opérées. Ces attestations étaient délivrées par des malades imaginaires et réputées incurables autrement, ou tout au moins par des badauds complaisants, comme il est si facile d'en trouver en pareil cas. La recette de ce merveilleux élixir était d'une simplicité vraiment patriarcale. L'illustre chimiste puisa de l'eau pure dans l'abreuvoir à bestiaux qui était placé dans un coin de la cour. Il remplit de ce liquide primitif une centaine de longues fioles et les boucha au moyen d'un cachet de cire représentant ses armes, c'est-à-dire deux pilons en sautoir. L'exergue de ce blason offrait cette devise dédicatoire à l'humanité souffrante. Enfin, l'étiquette dont monsieur le marquis entoura chaque fiole de cette eau parfaitement pure présentait loyalement cet avis essentiel. Toute fiole non revêtue de ma signature et de mes armes est déclarée fausse et je poursuivrai les contrefacteurs selon toute la rigueur des lois. Tous ces préparatifs étant achevés, le marquis de la Galoche se mit en marche, précédé comme toujours de son horrible cacophonie, et alla se poster fièrement sur la place du village. Son costume avait subi les modifications exigées par les convenances de cette nouvelle profession. Sa veste turque avait disparu sous un vieil habit rouge orné d'épaulettes à graines d'épinards et assez semblable à l'uniforme d'un généralissime anglais. Sa toque de velours était remplacée par un vaste chapeau à claques, embelli d'une cocarde fantaisie et surmonté d'un immense plumet vert. Le vacarme de son orchestre, dont Jean-Paul et Petit-Jacques continuaient de faire partie, eut bientôt attiré de nombreux spectateurs autour du char triomphal où se pavanait l'ingénieux factotum. Enfin, le marquis de la Galoche imposa alors silence aux virtuoses de sa suite. Il porta le revers de sa main droite à hauteur de son front, comme pour saluer militairement la foule, et, posant sa gauche sur la hanche, il prit majestueusement la parole en ces termes. « Messieurs et dames, tous les philosophes tant anciens que modernes, tous les savants qui ont consacré leur veille à l'étude de l'humanité, s'ils se sont disputés et injuriés sur beaucoup de points, se sont du moins accordés sur celui-ci, à savoir que l'homme paraît être sujet à une foule de maladies. » Marque d'étonnement dans la foule. Cette découverte est à coup sûr une de celles qui font le plus d'honneur à leur laborieuse investigation. Mais sans en appeler au témoignage presque unanime des philosophes de tous les temps, je dirais même de toutes les époques, qui ont le plus approfondi cette importante question, je me borne à invoquer ici votre expérience. Hein ? Plaît-il ? Il me semble que ce monsieur là-bas sourit avec un air d'incrédulité. Permis à lui. Sa conduite ne prouve pas sa grande capacité psychologique. Mais les opinions sont libres. Je persiste donc et je dis que, à l'exception de monsieur, tous les regards cherchent avec une expression de blâme l'incrédule qui n'existe pas, oui, à l'exception de monsieur, il n'est aucun de vous, messieurs et dames, qui, interrogé par un magistrat, osa répondre en justice, la main sur la conscience, « Non, l'homme n'est pas sujet à une foule de maladies. Il n'est aucun de vous, en effet, qui n'ait eu l'occasion d'observer, ça et là, que l'homme est sujet à la fièvre, à la colique, à la berlue, au mal de dents, à la goutte, aux engelures, au tétanos, au choléra, au comperloriot, aux fluxions de poitrine, au rhume, aux tuiles sur la tête, au corps, aux anévrismes, aux durillons, à 36 000 autres inconvénients de ce genre. Non, messieurs et dames, vous n'êtes pas venus sans avoir remarqué cela, jusqu'à l'âge que vous avez peut-être. Ce mot ne s'adresse point au sexe enchanteur qui m'écoute et qui ne saurait avoir aucune espèce d'âge. Ici, les femmes présentes minaudent avec grâce. Je me plais à rendre cette justice à la finesse d'observation dont la nature vous a doué. Assentiment général. Or, messieurs et dames, ce n'est pas tout que de dire. Il est à peu près généralement reconnu que l'homme est sujet à une foule de maladies. Le premier venu peut être capable d'en dire autant. Ce n'est pas là qu'est le difficile. Le difficile, c'est de les guérir. Adhésion générale. Par malheur, il ne paraît pas que ce soit jusqu'à présent le but que se proposent la plupart des grands philosophes qui se sont occupés de la matière. Vous êtes malade, vous les interrogez, ils vous répondent très catégoriquement que vous avez telle maladie, pourvu toutefois que ce ne soit pas telle autre. Mais pour ce qui est de vous l'enlever, va-t'en voir s'ils viennent. C'est absolument comme si vous leur proposiez de prendre la lune avec les dents. Bruyante hilarité. Eh bien, messieurs et dames, ce qu'aucun d'eux n'a pu faire jusqu'à ce moment, je viens le faire, moi qui vous parle. Et si j'ose me flatter d'une pareille supériorité, ce n'est point pour satisfaire un puéril amour-propre. Non, je dois le proclamer hautement, car je rougirai de me parer des plumes d'un autre. Ce remède surprenant, cet élixir incomparable, je dirais même sans pareil, que je vous apporte en ligne directe du fond de l'Arabie pétrée, eh bien, je n'en suis que le très humble dépositaire. C'est à l'illustre Mathusalem que l'humanité en est redevable. Oui, messieurs et dames, au respectable Mathusalem, dont vous n'êtes pas sans avoir entendu parler, ingénieux savant qui, par l'effet de son seul élixir, parvint sain et sauf à l'âge de 909 ans, 9 mois, 9 jours, et conserva si bien toute la vigueur de la jeunesse qu'au moment de son trépas, il se portait parfaitement bien. Certainement, s'il ne fut pas mort, il eût vécu encore bien plus longtemps. Légère marque de doute. Voici, messieurs et mesdames, ce remède étonnant. Je ne m'arrêterai pas à vous en faire l'éloge, je me contenterai de vous dire qu'il guérit de tout, même des maladies qu'on n'a pas encore. » Murmure flatteur. Oui, messieurs et dames, il guérit même d'avance, par opposition à tant d'autres remèdes qui ne guérissent pas même après. Rires et applaudissements. Il guérit les malades, il guérit les gens bien portants, et il faut qu'un individu soit diablement mort pour qu'il ne le fasse pas ressusciter. Admiration croissante. Avez-vous la migraine ? Très bien, versez-en 2 ou 3 gouttes dans un verre d'eau et avalez sans crainte, cela n'a pas mauvais goût, cela ne sent absolument rien. Eh bien, crac ! Votre migraine disparaît comme si on vous l'ôtait avec la main. Avez-vous mal aux pieds ? Très bien, même dose et crac ! Votre mal de pied s'en va comme si l'on vous coupait la jambe. Je pourrais vous citer ici une foule de cures plus merveilleuses les unes que les autres, ainsi que le constate le certificat des malades eux-mêmes. Mais ce serait de la vanité. Je n'en citerai donc aucune. À Vienne, en Autriche, par exemple, Sa Majesté l'Empereur m'envoya chercher dans plusieurs carrosses pour me faire administrer quelques gouttes de Mathusalem à Sa Majesté l'Impératrice, auprès de qui les plus fameux médecins du pays avaient fini par perdre leur latin. « Guéris l'Impératrice, me dit ce vertueux monarque, il me semble encore l'entendre, guéris-la, sauve mon épouse, et je te donne la moitié de mon vaste empire. » L'auditoire respire à peine. Je guéris effectivement, et ce vertueux monarque me fit remettre par son valet de chambre un magnifique écu de 3 francs. Murmure de satisfaction. Oh, la cure valait bien cela. C'était de décrépitude que l'auguste princesse s'était laissée tomber malade. 92 ans et quelques mois. Il s'agissait de la rajeunir, excusez du peu. Eh bien, ce fut une bagatelle. J'ai vraiment honte d'en parler. 3 gouttes par jour pendant 1 mois suffirent à la guérir de 75 ans. C'était par jour plus de 2 ans de moins. L'illustre malade était donc revenu à l'âge de 17 ans, âge charmant, âge des rires et des jeux, que les poètes appellent si ingénieusement le printemps de l'existence. Par malheur pour elle, Sa Majesté l'Impératrice ne fut pas tout à fait satisfaite de sa métamorphose. L'auguste princesse tenait à n'avoir que 15 ans. C'était son idée. Elle eut la légèreté de prendre de mon élixir en cachette. Or, elle se trompa de dose et, par conséquent, se rajeunit beaucoup trop. C'est au point que, quand je partis de Vienne en Autriche, elle était retombée complètement en enfance. Son illustre époux avait été obligé de la remettre au remaillot et de lui donner une renourrice. Cet événement fit beaucoup de bruit et exerça une grande influence sur les fonds publics. Tous les journaux en ont parlé pendant 2 ans. Nouvelle explosion d'enthousiasme. Mais voici qui est bien plus fort. Attention ! Un particulier a l'imprudence de se précipiter volontairement du haut de la cathédrale de Moscou, dont la flèche est de 6500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Personne n'a jamais pu monter jusqu'au bout, pas même ceux qui l'ont bâti, attendu que la respiration vous manque à moitié chemin. L'auditoire paraît haleté d'inquiétude. Bref, l'imprudent moscovite se brise la tête, se casse bras et jambes et s'enfonce toutes les côtes imaginables. Il ne faut pas lui en vouloir, ce n'était pas sa faute, il y avait cas de force majeure. Il ne pouvait raisonnablement pas s'en dispenser d'après toutes les lois de l'attraction. Eh bien, je ne fais ni une ni deux, je lui verse aussitôt dans la bouche 3 cuillerées de mon Mathusalem, et crac, le gaillard se relève. Enthousiasme impossible à décrire. Et il continue son chemin sans même penser à me dire merci. Combien est-ce ? On n'a pas idée d'un pareil oubli des convenances. Il paraît que j'avais guéri celui-là même de la politesse. Il arrêtait, mêlé d'indignation contre le moscovite. Mais au surplus, ce n'est pas par l'appât d'un vil lucre que je travaille. C'est pour l'honneur, c'est pour soulager l'humanité souffrante. Gardez votre argent, messieurs et dames, gardez-le. Je n'en veux point. Je ne veux que le remboursement pur et simple de mes avances. Voilà tout. Je n'ai pas besoin d'argent, moi. Je puis même en prêter. Qui est-ce qui veut que je lui prête de l'argent ? Il n'a qu'à passer au bureau. Ce sera sans intérêt. Témoignage de reconnaissance. Quelques personnes plus sensibles que les autres se prennent à verser des larmes d'attendrissement. Mais, me direz-vous, à combien donc ton élixir de Mathusalem ? Je réponds à cela que je ne vends pas mon élixir. Non, messieurs, je le donne. Ce n'est rien pour le contenu. C'est seulement 2 sous pour la fiole. 2 sous, pas davantage. c'est 6 francs de moins que ça me coûte à moi-même. Mais dois-je vous le dire, vous avez de plus, par-dessus le marché, en donnant 2 sous de plus, un recueil de secrets importants, tiré du grand Albert pour toutes les circonstances de la vie. Vous avez de plus, par-dessus le marché, en donnant 2 sous de plus, un recueil de 12 complaintes sur les plus jolis assassinats de cette année, avec des airs nouveaux très faciles à chanter. Vous avez de plus, par-dessus le marché, en donnant 2 sous de plus, un recueil des tours extrêmement curieux pour escamoter les tabatières à vos connaissances, pour glisser du crin coupé dans le lit de vos amis, en un mot pour être l'homme le plus agréable de la compagnie. Tout cela pour la bagatelle de 2 sous, de 4 sous, de 6 sous, de 8 sous, de 10 sous. Il y en a pour toutes les fortunes. Quant aux personnes qui n'auraient pas le moyen, qu'elles se présentent sans crainte. Je me ferai un devoir de leur administrer gratuitement mon élixir, pourvu qu'elles soient munies d'un certificat d'indigence délivré par M. le maire, légalisé par M. le préfet et approuvé par M. le ministre des Finances. Qu'on se le dise. Approchez donc, messieurs et dames, voici le reste de mes magasins, il ne serait plus temps demain. Profitez de l'occasion, parlez, faites-vous servir, en avant la musique.